Welcome.
Bienvenidos.
Konnichiwa.
Saluete.
Bon dia. Ni hao, bonjour. Vous êtes sur Radio U et vous écoutez Radio Calliope sur le 101.1 FM, le rendez-vous mensuel sur la langue et en langue de Radio U et de l'UBO. Je suis Sonia Tchankina, lectrice de russe à la Faculté des Lettres et lectrice du Centre de langue Calliope. Aujourd'hui, ma collègue Katie Foley, lectrice d'anglais, m'accompagne en studio. Bonjour Katie.
Ni hao, Sonia. Dans ce deuxième numéro de Radio Calliope, nous allons continuer notre voyage dans des pays exotiques de l'Est. En janvier, nous nous sommes rendus en Russie pour fêter Noël russe. Et maintenant, c'est le tour du Nouvel An chinois. C'est impossible d'imaginer une fête sans musique, n'est-ce pas? Dans cette émission, nous mettons donc à l'honneur la langue chinoise et nous allons également parler de la musique traditionnelle et urbaine en Chine et autour du monde.
Pour aborder ce sujet, nous irons à la rencontre d'un étudiant français apprenant le chinois et souhaitant devenir traducteur des jeux vidéo. Nous parlerons également à une enseignante de chinois, une étudiante chinoise installée à Brest, ainsi qu'à une chanteuse lyrique chinoise et à une spécialiste de musique urbaine italienne.
Nous poursuivrons notre émission avec une séquence sur la musique trot, un genre musical originaire du Corée du Sud, et un reportage du concert consacré au Nouvel An chinois.
Et comme d'habitude dans l'émission, nous allons présenter une recette de cuisine. Aujourd'hui, ce sera bien sûr une recette d'un plat chinois. N'oubliez pas de rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour être au courant de tous les événements sur les langues à Brest et aux alentours, dans notre section « L'agenda des langues ».
Aujourd'hui, de plus en plus de gens dans le monde entier choisissent d'apprendre le chinois comme langue étrangère. Pourquoi? Les raisons sont très simples. Ces dernières années, la Chine est devenue un des acteurs les plus importants de l'économie et de la politique internationale.
Pourtant, il est impossible d'apprendre une langue étrangère sans s'initier à la culture du pays. Un des organismes qui joue le plus grand rôle dans la promotion de la langue et de la culture chinoise dans le monde s'appelle l'Institut Confucius. Les Instituts Confucius sont des établissements culturels publics à but non lucratif, implanté depuis 2004 par la République populaire de Chine dans plusieurs villes du monde. Leurs buts principaux sont de dispenser des cours de chinois, de soutenir les activités d'enseignement local, de délivrer les diplômes de langue chinoise et de participer à la diffusion de la culture chinoise. Actuellement, on compte à peu près 500 instituts Confucius à travers le monde, dont 16 sont en France.
Aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau une enseignante de l'Institut Confucius de Bretagne, Oh Li Jing. Bonjour Li Jing.
Bonjour, ni hao.
Je vous présente également nos deux autres invités. Li Xin, étudiante en deuxième année de master français langue étrangère à l'Université de Bretagne occidentale. Bonjour Xin.
Bonjour.
Et Wu Ai, chanteuse lyrique travaillant à Brest. Bonjour Ai.
Bonjour, 大家好.
Et avant de commencer à discuter le sujet de l'apprentissage et de l'enseignement du chinois, je vous propose tout d'abord d'écouter ce qu'un étudiant français apprenant cette langue à l'Institut Confucius de Bretagne dit à propos de son projet professionnel, ses études et son séjour en Chine. Le mot à Rémi Descarnel.
Bonjour à tous, je suis Rémi, je suis un étudiant en LIBEO en première année de master rédacteur-traducteur et j'étudie le chinois depuis environ 5 ans. J'ai commencé par une licence LEA anglais chinois à l'université d'Artois, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, à Arras. Et pendant ma troisième année, j'ai eu l'opportunité de partir à l'université de Nanjing, ou Nankin en français. Ça se situe environ à 2 ou 3 heures de train de Shanghai. Et là-bas, j'ai pu étudier donc, le chinois pendant 2 semestres, donc on va dire environ 1 an. J'ai choisi le chinois par rapport à mon projet professionnel. En fait, je voudrais devenir traducteur, mais surtout traduire des jeux vidéo. Et je sais que c'est plutôt les Japonais, les Américains, voire les Européens qui produisent des jeux vidéo, mais il faut savoir que le marché chinois du jeu vidéo est le plus grand au monde. Et donc c'était pour moi un pari de choisir le chinois et de voir peut-être les Chinois commencer à importer des jeux vidéo, exporter des jeux vidéo, pardon, au niveau international. Et j'aurais pu traduire ces jeux vidéo. Donc, quand je suis parti en Chine, un de mes projets là-bas, c'était de voir les méthodes de consommation du jeu vidéo. Et c'était pour moi un grand choc parce que c'est totalement différent de la France ou du monde occidental. Car premièrement, ils n'utilisent presque pas de console de jeu. Ils jouent beaucoup en cybercafé et d'autant plus sur téléphone. Donc, je trouve que c'est très différent de chez nous. Et donc, est-ce que mon pari sera réussi? Je ne sais pas, mais je l'espère. Ensuite, mon séjour m'a aussi apporté, on va dire, plus de flexibilité, d'indépendance, car j'ai choisi de ne pas vivre dans un dortoir, mais de vivre dans un appartement. Donc, j'ai dû chercher mon appartement, j'ai dû comprendre comment payer mes factures, avoir une connexion Internet. Donc, c'est toutes des étapes qui sont simples à faire en France, mais qui sont beaucoup plus difficiles en Chine. D'autant plus que je ne parlais pas parfaitement la langue. Et ensuite, mon avis sur le futur de la langue chinoise, eh bien, je pense que la langue va prendre de plus en plus d'ampleur et d'importance, surtout au niveau commercial, financier et scientifique, car je pense que ce n'est pas un secret, les Chinois sont très présents dans le commerce, peut-être plus que les Américains à un certain point. Ensuite, en financier, il faut savoir que, par exemple, certains pays préfèrent désormais utiliser le yuan que le dollar pour les échanges internationaux. Et pour le niveau scientifique, normalement, il faut rédiger ses articles en anglais pour être publié dans les revues scientifiques. Or, les Chinois produisent énormément de textes et ont décidé de ne plus traduire leurs textes et donc de rédiger en chinois. Donc, c'est pour ça que je continue à étudier le chinois à l'Institut Confucius et... J'ai espoir que cette langue devienne de plus en plus importante.
Vous êtes toujours sur Radio Calliope, sur le 101.1, et nous venons d'apprendre quelles peuvent être les motivations des étudiants français pour choisir le chinois comme langue étrangère, sur l'exemple de Rémi, un étudiant en master rédaction, traduction, à la faculté des lettres de Dubéo, qui apprend le chinois à l'Institut Confucius. Et maintenant, il est temps de découvrir l'enseignement et l'apprentissage du chinois du point de vue des enseignantes. Li Jing, première question à vous. Okay. Depuis combien de temps vous habitez et travaillez en France?
Cette fois-ci, ça fait un an et demi déjà.
Okay. Oui. Et pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours professionnel? Pourquoi vous avez décidé d'enseigner le chinois en France?
D'accord. En fait, mon parcours professionnel, la plupart du temps, j'enseigne le français à l'université chinoise. C'est depuis mes études de langue française à l'université de licence, c'est-à-dire de master aussi. Après, je me suis lancée dans l'enseignement de français en Chine. Et après 5 ans d'enseignement, je me suis dit peut-être il est temps de venir en France pour... essayer un autre enseignement, c'est-à-dire une autre langue, de ma propre langue. Comme ça, je découvre ma langue aussi et je découvre encore plus la langue française ici. Voilà.
Alors, vous avez l'expérience comme enseigner le chinois et aussi le français. Alors, selon vous, c'est quoi plus facile d'enseigner votre langue maternelle ou une langue étrangère?
Oui, c'est plutôt enseigner la langue maternelle la plus difficile pour moi. Parce que la langue française, c'est quand même une langue plutôt logique et scientifique, avec beaucoup de grammaire précise, on peut très bien expliquer. Par contre, ma langue maternelle, c'est-à-dire les Chinois, même nous les Chinois, on n'a pas pris la grammaire, la vraie grammaire à l'école. Donc pour nous, c'est presque... On ne s'est pas rendu compte qu'on a la grammaire. Donc, une fois que tu commences à enseigner aux Français qui sont habitués à la grammaire, tout ça, ça devient difficile.
À votre avis, quelles sont les motivations principales des étudiants pour choisir la langue chinoise? Langue chinoise.
Si ce sont les étudiants, c'est plutôt pour le parcours professionnel dans le futur. Et sinon... oui, il y en a certains qui sont aussi plutôt intéressés par notre culture, notre langue, voilà. Tout simplement, ils ont déjà appris par eux-mêmes, à la maison même, avant de venir à l'institut pour continuer leurs études en chinois.
Et à l'Institut Confucius de Brest, comment sont les cours du chinois organisés?
D'abord, on a tous les niveaux, tous les niveaux du débutant au plus avancé. Et après, c'est ouvert à tout public. C'est-à-dire, on a les gens qui travaillent dans la journée, on a aussi des retraités, on a aussi les cours d'enfants. Souvent, et pour les gens qui travaillent plutôt dans la journée, le cours se déroule souvent le soir, à partir de 18h30, ça va durer 2 heures. Et pour l'enfant, c'est toujours le mercredi après-midi. Voilà, une heure et demie, ça dépend du niveau.
Et alors, les groupes sont séparés par leur niveau de chinois?
Oui, bien sûr. Ouais.
Et combien d'élèves sont en chaque cours à peu près?
Ça dépend. Chaque année, c'est un peu, ça varie un peu. Quelquefois, souvent, c'est entre 10 et progressivement, à cause de leur absence, peut-être il y aura moins, peut-être il y aura à nouveau qui vont venir encore. Donc, ça change tout le temps.
Et en rapport avec les types de cours, est-ce qu'ils sont pour la plupart juste des cours de l'apprentissage du langue ou est-ce qu'il y a aussi une variété de choses comme, bah, je ne sais pas, la couture chinoise ou c'est plutôt juste les cours de langue?
La plupart du temps, c'est plutôt les cours de la langue. Mais vous voyez, la langue est toujours très, comment dire, un lien très proche de la culture. Quand on apprend une langue, forcément, il faut apprendre la culture pour mieux comprendre comment ça fonctionne, cette langue comme ça. Voilà.
Et à la fin des cours, est-ce que les étudiants obtiennent un certificat à l'issue du cursus?
Non, à l'Institut Confucius, non. Par contre, on organise ici chaque année deux fois, ici à Quimper, une fois à Quimper, une fois à Brest, le HSK, c'est-à-dire HSK, c'est comme un peu le TELF DALF en français. C'est le gouvernement chinois a organise ce genre de texte dans le monde entier pour certifier votre niveau de français. Il a 5 niveaux.
Alors, passons peut-être à la question des dialectes. Je sais qu'il existe plusieurs dialectes de la langue chinoise. Est-ce que cela veut dire qu'il faut apprendre tous les dialectes?
Non, c'est pas besoin, pas la peine. C'est pas plusieurs dialectes, c'est même des centaines, des milliers de dialectes en Chine. Mais maintenant, la langue courante officielle, c'est le chinois mandarin. On apprend le mandarin, on écoute le mandarin, et à la télé, souvent, c'est le mandarin. Tous les chinois comprennent le mandarin. On peut parler aussi le mandarin. C'est entre les gens proches, entre les proches. Par exemple, dans ma famille, je parle souvent le dialecte avec mes parents aussi avec moi. Mais une fois que je discute avec mes collègues, c'est le mandarin.
Xin, une question à vous. Vous êtes actuellement en deuxième année du Master français langue étrangère à la Faculté des lettres de l'UBO. Quel est votre projet professionnel? Est-ce que vous voudrez enseigner le français en Chine quand vous terminez vos études?
Oui, exactement. Je fais ces études justement, c'est pour me préparer pour être future enseignante de français. Donc, je me prépare déjà de finir mes études et rentrer en Chine pour enseigner le français. J'aimerais bien enseigner à l'Alliance française en Chine.
Et avez-vous déjà une expérience de l'enseignement de la langue chinoise?
Oui, j'ai travaillé 1 an dans un lycée et en collège. J'ai enseigné le chinois pendant 1 an.
Li Jing, à votre avis, quelles sont les difficultés principales de l'apprentissage du chinois pour les apprenants occidentaux?
Oui, d'abord, c'est le ton, parce que on a les 4 tons. Par exemple, si je prononce 4 tons, c'est A, 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 A. Pour vous, c'est difficile de t'identifier, c'est lequel ton. D'abord, ça c'est difficile, très difficile. Et après, c'est le caractère, bien sûr. Parce que le son et le caractère est séparé en chinois. Quand on voit caractère, on ne sait pas forcément, même on ne sait pas comment prononcer ce caractère. Donc il faut vraiment le retenir par cœur. Voilà, c'est ça les difficultés. Aussi la grammaire. On n'a pas vraiment la grammaire, donc ce n'est pas très clair. On n'a pas la grammaire pour exprimer le futur, le passé, le présent. Donc tout ça, c'est à vous, aux étudiants, aux élèves de s'adapter à tout ça.
Pourquoi, d'après vous, cela vaut le coup d'apprendre le chinois malgré sa complexité,
Oui, pour moi, d'abord, apprendre une langue, c'est découvrir une culture. En plus, c'est une culture tout à fait différente. Je peux dire aussi ça peut être une culture complémentaire pour vous. Comme ça, voilà, c'est toujours intéressant de découvrir. Voilà. Et en plus, pour les jeunes, c'est plutôt maintenant, on peut dire les Chinois, on est nombreux, on est partout, on voyage beaucoup. Aussi, l'économie chinoise est en plein essor, on investit beaucoup à l'étranger. Peut-être pour les jeunes, ce sera un atout professionnel pour le futur.
Merci beaucoup pour vos réponses. Sans doute, la langue est étroitement liée à la culture et inversement. Les cultures et la langue chinoise ne sont pas une exception. La musique chinoise joue un rôle important dans la culture du pays, mais c'est vrai aussi pour presque tous les pays du monde. Pour explorer cette idée, Marlene Jones, lectrice d'anglais et amatrice de musique urbaine, est allée à la rencontre de Paola Attolino, enseignante d'anglais à l'Université de Salerne en Italie, et spécialiste en musique urbaine.
So could you please introduce yourself to our listeners?
With pleasure. My name is Paola Attolino. I am from the University of Salerno, Italy, and I'm here in the framework of the Erasmus staff teaching mobility, and I'm very happy to be here.
You are also an English teacher, but you have a strong connection to the urban music scene in Italy. What is your experience in this world?
Well, I have a radio program in Salerno, at the University of Salerno. The name is in Italian, of course. It is a Tutta Colpa del Rap, which may be translated as Is Only Rap to Blame? And, of course, we deal with rap music in general, but with a specific attention to local reality. The interland, Naples, Salerno, and the like. And it is very interesting to listen to the stories of these local rappers.
So for listeners who may have never heard this music, you mentioned that it is mostly a rap-based genre. Can you maybe expand on that, or do you see any more variety within other music genres, maybe perhaps some rock as well, or is it still mostly rappers that you are exposing on your radio show?
No, just rap, just rappers, yes. It is devoted completely to rap music, even if I have to say that it is not my favorite genre of music. I'm a rocker, indeed.
So what do you think are the roots of this type of urban rap music in Italy? Do you see it maybe aligning in any way with more traditional Italian repertoire? Or what do you think the evolution is? How did Italy become a rapping center of the world?
Oh, I think that the most fascinating thing about hip-hop and rap music in particular is the fact that it has spread all over the world, in Italy as well as in France before Italy, and wherever in Europe and all over the world. And in Italy, it started as sort of party fan rap. We had rappers like Jovanotti, I'm not sure you know him, but later rap music gave a voice to the voiceless. And indeed, we had this phenomenon of internal immigration in Italy. And in fact, most of the rap bands were from northern Italy, but the membership was from southern Italy. And so we had songs like Immigrato Totale, which is translated as total immigrant. And it talks about this problem of internal immigration in Italy. And it was in the 90s, and it is not a case, because in the 90s in Italy we had the spread of a political movement called North League, Lega Nord, which was quite racist against southerner, against places from Rome outside. And it is not the case. This is, of course, the usual fact that hip-hop is a mirror for social reality. Now it is interesting because we have Italian rappers which are representative of the so-called G2, the second generation. So immigrants, they are son and daughter, son for the most part, of immigrants, but they were born in Italy and they feel Italian. And so they, in some way, they want to underline that their identity is an Italian one or a sort of double identity. We have songs like Afro Italiano, which means Afro Italian. And it is very interesting. And so this is just the evolution of rap music in Italy, from internal immigration to immigration or second generation immigrants.
Very, very interesting. So just to sort of wrap things up here, the topic of our program this month is actually about Chinese language, music, and culture, and sort of how that ends up evolving in very different and modern ways as well. So as you simply mentioned before, the rap movement in Italy started very, very internally, but of course it mirrors bigger problems in society. Do you maybe see this same format working in places like China or other countries in Europe as well? What are your thoughts on how maybe other countries can use this music to their advantage?
I know that there is indeed a form of Chinese rap, but there is the big problem of censorship. And I think that this kind of music is spread on other places. Maybe it is difficult for them to have access to social networks like MySpace or other stuff. But I am sure that there is something maybe underground, some movement underground. And as I told you before, any places in the world has its own hip-hop. And for example, I remember that even in Palestine, there are rappers, a group, a band in particular, which is called Damn Palestine, with songs like Who is the Terrorist? And so, of course, they are sang in Arabic language, but you can find them on YouTube with English subtitles. And this is interesting, too, because there is the need to spread this music and to let people know about the problems that Palestinian people live in their own land. And it is quite interesting. Of course, we have also Tel Aviv hip-hop and whatever. Mm-hmm. It is really a fascinating world.
Thank you so, so much for your time today and your expertise on the hip-hop, social issue, music, urban movements in Italy and beyond as well. We definitely hope to feature your expertise on future shows as well. So thank you again so much.
Thank you very much.
Vous êtes toujours sur Radio Calliope 101.1 FM et nous venons d'écouter une interview avec Paola Attolino, spécialiste en musique urbaine, sur le rôle de ce type de musique dans la culture contemporaine. Revenons maintenant à la culture asiatique et plus précisément à un genre musical qui représente un mélange de la musique traditionnelle et du pop, la musique trot. Ce genre est originaire de Corée du Sud où il est apparu durant les années 1920, lors de la colonisation japonaise. Il est reconnu comme étant la plus vieille forme de musique populaire coréenne et est à l'origine de la K-pop actuelle. Pour apprendre plus sur la musique trot, écoutez notre reportage suivant préparé par Julie Kunil.
Trot, T-R-O-T, whose name derives from ballroom dance, foxtrot, because of its simple two-beat rhythm, contains 7 to 5 syllabic stanzas. And the performers sing in a unique vocal style called gagok. Korean trot music is actually a modified type of Japanese music, enka, that was imported from Japan in the 1900s when Korea was a Japanese colony. Once enka enters the country, Koreans made it their own, using it to express their dreams and sorrows. After the war, trot music started to be more westernized and was introduced to western sound effects. Trot trot music has known a decline in popularity during the 80s, but trot has experienced several recent revivals by K-pop artists such as Big Bang's Daesung and singer Jang Yong-jeon. The new generation of trot, often called neo-trot, is a mix from traditional trot and modern K-pop music. As for the performances, we can notice that as time progressed, the trot genre began to incorporate some of the distinctly Korean dance moves, and performers often choose to wear bright and sparkly outfits, or Hanbok-inspired outfits.
Vous êtes toujours sur Radio Calliope, sur le 101.1 FM, et nous venons d'écouter un reportage sur la musique trot originaire du Corée du Sud. Mais savez-vous que ce type de musique a influencé la musique populaire en Chine, y compris la musique urbaine? Un bon exemple de cette influence est la musique de Vava, chanteuse et rappeuse chinoise. Écoutons une de ses chansons tout de suite. Et alors, si vous aimez bien la musique chinoise, cela sera bien sûr votre prochaine chanson de la vie. Une vraie œuvre d'art. Voilà la chanson de Vava.
Yeah. 单子，走到街上就看你天台进口奔驰。我来自成都，是成都的恩赐。你听到的不光一个什么，还有真实。没有几个当我高兴的，就像过生日。弟娃喜欢我当偶像，喜欢我的根子。还有哥哥姐姐叔叔阿姨都是粉丝。欣赏不来，只把钱包里的就该生日。出发的那个女生不爱美是像我满血 bug， 你爱的那个 bad boy 都想与我有瓜葛，多少 hate 他们把我视为眼中钉，当嫉妒从你心里爬到脸中心，做自己就是你，做个最时尚的新人，打扮漂亮的出门，要坚持这种精神。当我出现每一眼都惊艳，讨厌肤浅，给我捡起一偏见，忽近忽远就该谦虚信任，要更酷炫，每一天都更鲜艳。穿我的，穿我的心，希望每一天有不同的惊喜，穿我的，穿我的新衣，从来不敷衍，难办的惊喜，穿我的，穿我的新衣，希望每一天有不同的惊喜，穿我的，穿我的新衣，从来不敷衍，难办的惊喜。清早起来什么起司糕，素衣的油头什么花香，脸上擦的是什么花粉，好看的胭脂是什么花。
Vous écoutez toujours Radio Calliope sur le 101.1 FM. Nous avons bien exploré la musique urbaine et ses origines dans la musique traditionnelle. Maintenant, concentrons-nous un peu plus sur ce dernier type de musique et sur la culture chinoise en général avec nos invités. Ai, la première question à vous. Depuis combien de temps vous êtes en France et pourquoi vous avez choisi ce pays pour vivre et pour travailler?
Depuis 10 ans que je vis en France et j'avais fait mes études au conservatoire de Shanghai où j'ai obtenu mon diplôme de master et j'ai eu la chance d'intégrer la classe de chant de Madame Zhou qui est une légende en Chine. Et c'est avec elle que j'ai appris tout le répertoire français, les mélodies françaises et les opéras. Et j'étais très passionnée par la musique française et la culture française, évidemment la langue aussi. Du coup, je me suis plongée dans la culture française. J'ai lu des œuvres d'écrivains français comme Baudelaire et Victor Segalin qui étaient à Brest. Et en 2006, j'ai chanté le rôle de Carmen au théâtre de Ruluting à Shanghai. Et après mes études au conservatoire, j'ai décidé à venir en France. J'ai décidé de venir en France pour me perfectionner dans le répertoire français. Voilà.
Vous êtes chanteuse lyrique et pourriez-vous expliquer à nous et à nos auditeurs qu'est-ce que c'est exactement ? De quel type de musique s'agit-il ?
Alors, le chant lyrique, il s'agit surtout de l'opéra, mais aussi de la musique sacrée, les mélodies françaises, et les lieds allemands, etc.
Est-ce que vous interprétez des œuvres musicales en français, en chinois ou en autre langue aussi ?
Alors, je chante en français, en italien, en allemand, en espagnol, même en russe. Et j'avais chanté déjà des mélodies de Rachmaninov, de Tchaïkovski.
Super. Et alors, pourriez-vous chanter quelque chose de votre répertoire ici en studio ?
Alors, je vais vous chanter une chanson traditionnelle chinoise dans le style le mongol. Mais vous savez, en Chine, il y a 55 minorités ethniques. Et chacune minorité a sa propre culture, notamment des styles musicaux, on peut dire très caractéristiques. Et je vais vous chanter une chanson qui s'appelle « La nuit dans la steppe ». Alors, il raconte la nuit et dans la steppe est sereine, si douce, si calme que ma musique s'envole doucement dans l'air. Et j'attends que la neige fonde et que le printemps vienne. Les saisons passent, même je suis toujours là à attendre ta venue, seule avec ma musique. Mei li di ye su tu chen ji. Cao yuan shang zhi liu xia wo de qi yin shang. Xiang ge yuan fang de gu niang xie feng xin ye.
可惜没有邮递，原来爱传情。Merci beaucoup, Ai. C'était vraiment très, très joli. Signe, maintenant une question à vous. Quel type de musique les jeunes chinois écoutent aujourd'hui, selon vous?
Alors, les jeunes, moi, je suis post-90, ça veut dire que je suis née après 1990. Cette génération, on écoute beaucoup pop music comme Jay Zhou, un chanteur taïwanais, Zhou Jielun, Eason Chen, Chen Yixun, un chanteur hongkongais. Des fois, on écoute aussi des groupes de musique comme Meitei ou Yue Tian, un groupe taïwanais aussi. Alors, pour la génération née après 2000, ils sont plus jeunes que nous. Aujourd'hui, ce qui est populaire, c'est plutôt le hip-hop ou le rap.
Mm-hmm. Est-ce que vous écoutez aussi beaucoup de musique occidentale en Chine?
Oui, on écoute beaucoup de chansons américaines, occidentales. Oui, oui, tout à fait.
Ai, maintenant, encore une question à vous. Mm-hmm. Si on parle de la culture en général, pensez-vous que la culture chinoise est considérablement influencée par la culture occidentale ou qu'elle reste plutôt indépendante et authentique?
Alors, déjà, la Chine est un pays qui a une longue et riche histoire. La musique chinoise est née en Chine, on peut dire, il y a environ 3000 ans. Et au fil du temps, elle a beaucoup évolué. Et comme tout à l'heure, je vous ai dit, en Chine, on a 55 minorités ethniques. Chaque minorité a sa propre style de musique. Et maintenant, avec alors depuis l'année 1900, la Chine, la musique chinoise a beaucoup influencé par la musique, la culture occidentale. Et durant les années 1920 et 1930, de nombreux compositeurs sont venus en Europe pour faire leurs études. Et à leur retour en Chine, ils ont composé des œuvres inspirées beaucoup par le lead allemand, parce qu'ils sont venus en Europe, surtout notamment en Allemagne et Autriche. Oui. Et puis, en ce moment, aujourd'hui, avec le développement économique et mondialisation, la Chine s'ouvre de plus en plus. Et la Chine cherche plus de échange, plus d'échanges dans la culture avec les Occidentaux. Et du coup, il y a beaucoup plus de croisements. Et en tant qu'une chanteuse, en tant que chanteuse lyrique qui vit en France, et je chante beaucoup d'œuvres occidentales, mais je pense que c'est ma mission aussi de vous faire connaître ma culture natale et diffuser la musique et la culture traditionnelle chinoise. Mm-hmm. Voilà.
Très intéressant. Lidin, et une question à vous. Une des missions principales de l'Institut Confucius est de participer à la diffusion de la culture chinoise dans d'autres pays. Pourriez-vous donner des exemples des événements culturels organisés par l'Institut Confucius de Bretagne?
D'accord. Pour nous, maintenant, chaque année, à peu près en juin, en mai, on a toujours le festival de cinéma chinois. C'est en France, mais ce festival se déroule toujours dans 7 villes, si je ne me trompe pas, en France, française. Brest est parmi l'une de ces villes-là. Donc, pour cette année, ce sera le 8e festival de cinéma chinois en France. Ça aura lieu en mai. Mais le jour précis, on n'a pas encore. Normalement, c'est en mai. Voilà. Sinon, on organise toujours des activités culturelles autour des fêtes traditionnelles chinoises. Par exemple, la fête du printemps, cette année-là, on a déjà organisé un concert de la musique traditionnelle chinoise. Et autour de la fête du bateau de dragon, par exemple, on organise aussi des activités autour de ce sujet-là.
Merci pour vos réponses. Continuons-nous d'explorer de la musique traditionnelle chinoise. Marlene Jones, lectrice d'anglais, et ma co-animatrice Sonia sont allées au concert de musique traditionnelle consacré au Nouvel An chinois qui a eu lieu à la salle du Clous de l'Université de Bretagne occidentale.
L'opportunité en France, je peux écouter ce concert.
Je suis venue parce que ça a l'air intéressant et j'aime bien le monde asiatique.
Le concert de ce soir est organisé par l'Institut Confucius de Bretagne. Maintenant, Mélanie, qui est coordinatrice de l'Institut, va nous dire quelques mots sur ce projet.
Bonjour. Alors, ce concert a été organisé grâce au réseau des Instituts Confucius de France. Donc c'est la coordinatrice culturelle Fanny Vallenbois qui a proposé une tournée française avec ses musiciens qui viennent du Danemark et de l'Institut Confucius de musique et qui sont aussi enseignants à l'Académie royale de musique du Danemark.
Oui, je l'ai mis en 7 sur le départ.
J'ai qu'à le faire, il est dedans.
Normalement. Faut que tu checkes, mais normalement. Oui.
Tu mets le 48, c'est toi qui mets.
Le 48, il est bon, j'ai testé le son, j'ai écouté.
Oui, je l'ai entendu, c'est pas mal. Hein.
C'est,
bon.
Ouais, c'est pas mal.
C'est bon, t'as le patch.
J'ai le patch,
hein. Par contre,
celui-là,
j'ai entendu.
Par contre,
celui-là,
je sais pas ce qui se passe.
C'est plus facile ça. Mike, avance.
Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît, et nous dire de quel instrument vous jouez?
Hello, 大家好，我是来自中国的李迎春。那么我的专业是我的笛子。
Bonjour à tous, je m'appelle Li Yingchun et je joue de la flûte de bambou chinoise ou 笛子。
我叫周玲一。这次我会演奏两个乐器，一个是琵琶，一个是中阮。
Je m'appelle Zhou Linyi. Pour ce concert, je joue de deux instruments. Je jouerai du pipa ou du luth chinois
et du Zhong Zhuan, qui est un autre type de lutte.
我是米玄叶，我演奏的乐器是中国扬琴。
Je suis Mi Xuan Ye, je joue du 扬琴, du tambourin chinois.
大家好，我叫齐杰，啊，我的专业是中国琵琶。
Bonjour à tous, je m'appelle Tidier et je joue du pipa.
Est-ce qu'il y a quelque chose en France qui vous a vraiment impressionné dans le travail ou dans la vie quotidienne?
昨天在上一个城市演出的时候我们已经奏完了曲子，可是观众的掌声就很长时间，他们希望再听到两首，所以我们返场了两次，这是我们非常吃惊的。
Une des choses qui nous ont beaucoup surpris, c'est l'accueil chaleureux de la part du publicAprès le concert, ils montent souvent sur la scène pour voir de près nos instruments et ils semblent être très contents. Pendant notre dernier concert, le public applaudissait longtemps après chaque morceau. Ils voulaient qu'on rejoue des morceaux, alors nous devons faire des rappels. C'était vraiment surprenant pour nous.
I was wondering, it does look very similar to the piano. That's fantastic. So, when you play this, how much control? How much control do you have over like chords? Do you play like chords at a time or just single notes? How do you mostly work this instrument here?
You can see this two pitches cross this point.
Oh, wow.
And we can play maximum three notes.
Oh, wow. That is so cool. Yeah. That's fantastic. And if you want one single note, because these are all connected. Yes. Oh, wow. Yes. That is so cool. There are three strings, but I hear only one note.
Pourriez-vous nous parler un peu de la musique que vous allez jouer ce soir?
今天晚上我们做的是像音乐地图一样的这样一个主题。大家都知道在中国有丝绸之路，在古代的时候，那么我们的音乐就是沿着丝绸之路在中国经过的不同的地区、不同的城市，它的音乐的特色。所以大家可以听到，有三个不同地方的音乐，他们感觉都还可以通过这样的一个主题，这样的一场音乐会，更多方面的了解中国的音乐。
Notre concert va représenter une sorte de carte géographique musicale. Tout le monde a entendu parler de la route de soie qui traversait la Chine à l'époque médiévale. Nous allons donc suivre la route de soie et visiter différentes régions et différentes villes de Chine.Tout en découvrant les particularités de la musique traditionnelle chinoise. Vous allez entendre la musique de trois différentes parties du pays et comme ça découvrir la musique chinoise de manière plus profonde.
C'est la première fois que j'écoute un concert de musique traditionnelle chinoise et je crois que c'est intéressant. Je crois que c'est une chose qu'on doit essayer d'écouter au moins une fois dans la vie parce que c'est vraiment différent de la musique occidentale. Donc pour moi, ouais, c'était vraiment intéressant.
Super, merci.
Écoutez toujours Radio Calliope sur le 101.1 FM. C'était le reportage sur un concert de la musique traditionnelle chinoise qui a eu lieu à l'UBO. Sans doute, la musique et la culture chinoise semblent toujours exotiques pour les Occidentaux. Cependant, est-ce que l'inverse est aussi vrai? Est-ce que c'est difficile pour les Chinois qui s'installent en France de s'intégrer dans la société occidentale? Posons ces questions à Xin, étudiante à la Fac des Lettres, qui est avec nous en studio aujourd'hui. Xin, depuis combien de temps vous étudiez en France?
Je suis venue en France en 2013, donc c'est à peu près 5 ans déjà.
Et la question traditionnelle à nos invités, pourquoi avez-vous choisi la France et plus précisément Brest pour faire vos études et pour travailler?
Je suis revenue en France plusieurs fois. Au départ, c'était pour mes études parce que je voulais approfondir ma langue française comme le français est ma spécialité à l'université en Chine. C'était un programme d'échange, donc je suis venue apprendre surtout le français. Et je suis revenue deux et troisième fois, c'était surtout pour les amis et la culture, parce qu'à force de vivre ici, je commence à faire des amis français, je commence à connaître la culture. Donc je suis revenue ici plutôt pour profiter la vie et cette belle langue. Et j'ai choisi la Bretagne parce que j'aime bien le breton et j'aimerais bien connaître la culture bretonne aussi.
Intéressant. Vous souvenez-vous, quelle était votre première impression de la France à votre arrivée?
Alors oui, c'était en 2013, c'était la première fois que je sors à l'étranger, à part de Chine. Donc la première impression c'est plutôt, je me sens, ce n'est pas familier. J'avais l'impression que je suis dans le film. La France c'est vraiment un monde occidental. Je ne pouvais pas différencier tous les pays en Europe, en espagnol, Espagne, allemand. Non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais que voir, il y a des églises partout, il y a le bâtiment est à style occidental, il y a des boulangeries qui est très différent qu'en Chine. Donc la première impression c'est plutôt que je savais que je n'étais pas chez moi, je suis à l'occidental, voilà.
Et évidemment, il existe pas mal de différences entre la France et la Chine, comme vous avez dit. Est-ce que c'était difficile pour vous de vous intégrer dans la société française? Et si oui, quelles étaient les difficultés principales?
Oui, il y a sûrement des difficultés quand on part à l'étranger. Je pense qu'au départ, c'est plutôt les détails dans la vie quotidienne. Par exemple, le français dîne très tard. Il dîne à peu près à 20 heures tous les jours, alors qu'en Chine, on dîne à 18 heures. Donc au début, j'ai toujours faim à la fin de la journée. C'est pas facile. Et il y a aussi la fameuse l'eau chaude, que les Chinois boivent toujours l'eau chaude. Alors ici, vous buvez de l'eau froide avec des glaçons là-dedans. Et aussi, quand je marche dans la rue, la voiture va cesser les passagers, alors que ce n'est pas le cas en Chine. Mais c'est ce qui est très agréable aussi. Par rapport à politesse, vous faites bisous, alors que c'est pas facile pour nous. La première fois, il y a un Français qui essaie de me faire un bisou pour montrer sa politesse. Ça m'a fait peur. J'ai failli sauter. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Et vous dites aussi tout le temps merci, ce qui est bien. Je commence à apprendre de dire plus souvent merci aussi. Donc c'est plutôt le détail de la vie qui pose la difficulté, je pense.
Oui, c'est intéressant. J'ai remarqué quelques des mêmes différences quand moi je suis arrivée ici comme américaine, mais c'est intéressant de voir les choses en commun. Et avant votre arrivée en France, vous aviez déjà sans doute une certaine image de ce pays. Quelle était cette image et est-ce que celle correspondait en fait à la réalité?
Alors, avant que je sois arrivée en France, j'avais quelques impressions, mais c'est surtout très stéréotypé. Par exemple, la tour Eiffel, le vin rouge, escargot, les baguettes, c'est ça qui était dans notre tête. Mais après être arrivée en France, je me rends compte que tous les Français n'ont pas le vue sur la tour Eiffel, ils ne mangent pas l'escargot tous les jours. Ils ont les vacances, mais ils travaillent quand même. Donc, je pense qu'il faut vraiment arriver en France pour découvrir ce pays.
Génial. À votre avis, quelles sont les différences principales entre les études en France et en Chine?
Je pense qu'en France, on se sent plus libre. C'est-à-dire, le professeur vous donne des exposés à faire, on a du travail en groupe, on est plus libre et on peut avoir plus de créativité quand on essaye d'apprendre. Alors qu'en Chine, c'est plutôt, c'est surtout la langue, hein, on fait des exercices grammaticaux, le travail est plutôt individuel. Voilà, c'est la plus grande différence que je ressens.
Et je vais poser la question à vous, Xin, et aussi à vous, Li Jing. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux étudiants chinois qui souhaitent faire leurs études en France?
Bon, d'abord, avant le départ, je leur conseille de prévoir toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer en France. Comme Xin a expliqué, la première impression de nous, une fois arrivés en France, toujours, c'est pas familier. C'est tout à fait étranger au monde. Et en plus, la langue est importante. Xin et moi, on a appris la langue déjà, le français en Chine. Donc, on a eu moins de difficultés dans la vie. Mais si les Chinois, les jeunes ne savent pas parler le français, pour vivre en France, c'est pas très, très facile, je crois. Et en plus, il vaut mieux connaître les bons côtés et aussi les mauvais côtés de la France. Bien sûr, le bon vin, voilà, la paquette, le parfum, les hautes coutures, tout ça, c'est pour nous, on a toujours une très bonne impression sur la France et sur les Français. Mais une fois arrivé ici, pour vivre vraiment ici, par exemple, faut pas sortir à 2 heures du matin dans la rue. Ça, en Chine, pour nous, c'est normal. Même si on sort à 2 heures du matin, on se sent toujours en sécurité. Ça ne nous pose pas aucun problème. Mais en France, une jeune fille qui m'a dit, une étudiante chinoise, elle dit « Ah, je suis sortie hier soir à 2 heures du matin, mais ça m'a fait peur. » Mais j'étais étonnée, elle dit « Bon, avant de venir ici, il faut le savoir. Il faut savoir qu'en France, c'est pas pareil dans la nuit qu'en Chine. » Voyez, c'est ça, par exemple, maintenant, il y a entre nous, c'est-à-dire entre les Chinois qui habitent en France, sur les réseaux sociaux, il y a une fille, une étudiante chinoise à Paris qui, elle a disparu. Elle a disparu. On a essayé de la retrouver, mais on peut pas, maintenant, pas de résultat, pas encore. Elle est sortie et sans portable, sans passeport, après. Oui, en plus, c'est une de mes élèves en Chine. Wow. Oui, à notre université. Donc, ça nous a beaucoup bouleversé.
Bon conseil. Non. Et Xin, est-ce que vous avez des conseils?
Pour ceux qui veulent faire ces études en France, je pense qu'il y a surtout une préparation psychologique, ça veut dire mentalement, il faut accepter des variés chocs culturels peut-être, d'essayer de vivre dans un monde complètement différent, surtout les nourritures, est-ce que vous êtes prêt de manger le fromage, est-ce que vous êtes prêt de manger de salade, etc. Et aussi, on vient en France, c'est pas juste pour les études, c'est aussi pour la vie, pour la découverte de la vie française. Donc, quand on comprend pas, il faut oser parler, il faut oser demander, essayer de participer des soirées avec les vrais Français au lieu de rester dans le groupe chinois, même si on est un étranger. Et je pense que c'est une très bonne occasion de vivre en France, de grandir, d'essayer d'apprendre, de gérer plein de choses, comme déménagement, comme les démarches administratives. C'est une très bonne occasion de grandir.
Merci beaucoup à nos invités pour leurs réponses. C'était vraiment très intéressant. Merci. Sans doute, l'un des meilleurs moyens de découvrir la culture d'un pays est de goûter ses plats traditionnels. C'est pour ça que dans chaque émission, nous vous présentons une nouvelle recette de cuisine. Cette fois, je suis allée à la rencontre d'un étudiant chinois, Zhu Yemao, qui va nous apprendre à faire les crêpes chinoises, que les Bretons amateurs de crêpes vont bien sûr adorer. Aujourd'hui, je suis dans la cuisine avec Zhu Yemao, un étudiant chinois à la faculté des lettres à Brest, qui va nous présenter la recette d'un plat chinois traditionnel, les crêpes chinoises. Bonjour Yemao.
Bonjour.
Yemao, tout d'abord, est-ce que tu peux dire quelques mots sur ce plat? Dans quelle partie de la Chine on peut le trouver?
Aujourd'hui, on va préparer une recette qui s'appelle jianbing. Ça vient de il est origine de Tianjin et on peut trouver partout en Chine, surtout le matin. On mange le jianbing comme le petit déjeuner. Voilà.
D'accord. Alors, de quels ingrédients on aura besoin pour préparer la crêpe chinoise?
一开始, 要用三根油条.
3 油条, l'ont baigné cuit à l'huile végétale.
80克面粉.
80 grammes de farine de blé.
40克的... 那个水墨绿豆
40 grammes de farine de haricot mungo
220毫升水
220 ml d'eau froide
4个鸡蛋
4 œufs, un œuf par crêpe
1勺油
1 cuillère à soupe d'huile de tournesol
1个白的洋葱
Un oignon blanc.
然后一勺白芝麻.
Une cuillère à soupe de sésame noir.
还有放一点点香菜.
Un peu de feuilles de coriandre fraîche.
然后再放一勺酱油.
Une cuillère à soupe de pâte de soja fermentée.
和两勺水. 用于把酱油给它冲稀释.
2 cuillères à soupe d'eau pour diluer la pâte de soja fermentée.
然后一点点那个红辣椒.
Un peu de piment rouge.
首先我们先加入准备好的面粉, 然后再加入400升水. 顺便把加入的水和面粉搅拌均匀.
Mélangez la farine de blé avec la farine de haricot mungo, ajoutez de l'eau petit à petit en touillant.
然后再加入一勺那个酱油, 生抽酱油, 顺便搅拌均匀。 紧接着同时呢, 有这个空闲时间, 我们可以切一些, 香菜。
Mélangez une cuillère à soupe de pâte de soja fermentée avec un peu d'eau. Hachez l'oignon, ciselez les feuilles de coriandre.
现在我们开始做，首先要准备一个平底锅，然后用七档，大概把这个锅给它烧热，烧热以后加入一点油在锅底。
Chauffez une crêpière ou une poêle, graissez à l'aide d'un pinceau, mettez une louche de pâte liquide, tournez la poêle pour étaler la pâte ou bien à l'aide d'un râteau. Laissez cuire jusqu'à ce que les bulles commencent à former.
行，现在我们的面饼已经做的差不多了，现在要放一个鸡蛋下去，然后再把鸡蛋摊平，抹在面饼面上，这样可以保持它的熟度，不至于一边生一边熟。
Cassez un œuf, bien l'étaler sur toute la crêpe. Ajoutez l'oignon haché, les sésames noirs et les feuilles de coriandre ciselées.
等那个鸡蛋差不多熟的时候，然后我们需要把面饼给它翻过来，这样的话可以让它们两面都保持一种熟的状态，更松脆可口。
Quand l'œuf est cuit, retournez la crêpe à l'aide d'une spatule.
Ah, 现在我们的crêpe chinoise已经完成了，所以其实也很简单，和法国的crêpe差不多。所以祝愿每一个听众有一个好胃口，希望你们喜欢这道菜。
Et alors notre crêpe chinoise est prête et on souhaite bon appétit à tout le monde.
Ces crêpes ont l'air très bonnes. Vous êtes toujours sur Radio U 101.1 et vous écoutez Radio Calliope, l'émission 100% langue. Mélanie est avec nous aujourd'hui pour nous faire découvrir tous les événements en langue étrangère à Brest et aux alentours. Mélanie, à vous la parole.
Bienvenue dans l'agenda des langues, une sélection non exhaustive d'événements dans toutes les langues. Et ce mois-ci, vous aurez beaucoup d'occasions de pratiquer les langues. La sélection débute sous le signe de l'aventure. Jeudi 1er mars, l'association Tandem Sans Frontières vous propose un escape game à l'UBO. Vous pouvez former une équipe de 4 à 5 personnes et vous inscrire au bureau du BDE de l'IAE, ManaWave. C'est 5€ par personne et 3€ seulement pour les adhérents. Dimanche 4 mars, à 15h30, on vous invite à venir admirer les danseurs du Ballet National de Russie pour leur spectacle Kostroma. C'est 28€ ou 26€ en tarif réduit à l'espace Kérodi à Plougonvelin. Et pour un cours de breton et d'espagnol, et oui c'est original, on vous donne rendez-vous mercredi 7 à partir de 15h dans les locaux de l'association Strolade Laobra à Douarnenez. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur leur page Facebook. Le mercredi 14 mars, apportez un plat à partager et pratiquez la langue de votre choix pendant l'apéro langue de la Maison pour tous de l'Eure-et-Loire. C'est à partir de 18h45. Comme d'habitude, comme tous les mercredis, vous pouvez enchaîner au Tudor à 21h pour le Language Exchange Evening organisé par Brest International. Le lendemain, jeudi 15 à 14h30, ne ratez pas la projection du film de Luc Giard, Irlande, Ombre et Lumière, à l'espace culturel Armorica de Plouguerneau. Le mercredi 21 mars, venez parler chinois ou français avec des chinois au coin chinois à partir de 18h30 au BH Café. Et après avoir parlé, eh bien, il faut écrire. C'est pourquoi le collectif Langue du Tonnerre vous invite à écrire dans votre langue maternelle si celle-ci n'est pas le français. Vous avez jusqu'au 30 avril pour envoyer votre texte sur le thème « Mon héroïne ou mon héros », cette personne fictive ou réelle que j'admire. Les 75 premiers textes seront publiés dans la revue annuelle Écriture en partage. Donc vous pouvez avoir plus de renseignements en écrivant à landuton@gmail.com. Voilà, c'est fini pour l'agenda des langues. Si vous avez des événements à partager, envoyez vos infos à contact@radio-u.org et nous nous ferons un plaisir de les annoncer. Enjoy!
Merci Mélanie. Chers auditeurs, c'est tout ce que vous voulez vous raconter dans notre émission de février. Merci à nos auditeurs, à nos invités et à notre équipe de bénévoles d'avoir participé à la préparation de cette émission.
Venez nous rejoindre en mars pour notre troisième émission 100% langue sur les langues et la culture celtique. À ne pas rater.
Zaijian, do svidaniya.
Till we meet again, dear listeners. À la prochaine fois.
Welcome.
Bienvenidos.
Konnichiwa.
Saluete.
Bon dia.